RCF.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Aujourd'hui, nous accueillons un ami fidèle de l'émission, Jean-Pierre André. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Bernard.
Alors vous êtes historien, conférencier, membre de la Société archéologique et d'histoire du Berry, secrétaire général de l'Amicale du 95e Régiment d'infanterie. Je vous connais bien, vous êtes un passionné, au cœur tendre, très attaché à votre régiment, à notre régiment, justement. Si nous remontons le temps, nous avons quitté le 95e Régiment d'infanterie avec l'année 1916, il y a quelques mois. Nous nous retrouvons aujourd'hui, en cette fin d'année 2017, justement, pour suivre le 95e Régiment d'infanterie dans cette terrible année 1917. L'année 1917, pour l'ensemble des historiens, c'est l'année du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette affirmation que maintenant tout le monde s'accorde à dire que c'est la vérité ? Jean-Pierre.
Oui, je suis un peu désolé, Bernard, mais je ne sais pas moi, si on peut affirmer aussi péremptoirement que 1917 a été l'année du siècle. Ça a été une année importante, une année fondamentale dans la guerre de 1914-1918. Une année importante parce que elle a vu l'empire germano-autrichien, qui était triomphant, commencer à subir des problèmes, notamment sur le plan maritime. D'abord parce que le blocus maritime exercé par les forces britanniques commençait à mettre l'Allemagne économiquement à genoux. Elle ne pouvait plus approvisionner les matériaux dont elle avait besoin. Et les matériaux et produits qu'elle pouvait obtenir dans les zones envahies, notamment de l'est de la France, mais aussi des Balkans, n'était plus suffisant pour soutenir son effort de guerre. Et puis, cette guerre à outrance sous-marine qu'elle avait déclenchée a produit des effets tout à fait néfastes, et notamment, enfin néfastes pour elle, et notamment a provoqué l'entrée en guerre des États-Unis, ce qui a été absolument décisif dans le tournant de la guerre et dans la fin de la guerre.
La fin de la guerre, oui. Voilà. Parlons à un autre moment de la Révolution russe, hein, parce qu'il y a eu une application très importante, nous le verrons, hein, en particulier pour l'année 1918. Je voudrais qu'on revienne au 95e Régiment d'infanterie. Et je sais que l'année 1916 a été difficile, mais aussi héroïque. Alors j'aimerais franchement que vous m'en parliez, parce que on peut dire que le 95e Régiment d'infanterie de Bourges a joué un rôle fondamental, important, sur l'offensive allemande à Verdun.
Absolument. L'offensive allemande à Verdun a, dans ses premiers jours, deux, trois premiers jours, complètement anéanti les troupes qui étaient sur place, qui étaient relativement faibles d'ailleurs. Le 22 février, ouais. On a demandé à la 16e division et notamment à la 31e brigade, 85e et 95e RI, de venir en catastrophe colmater la brèche qui était en train de se créer au niveau du fort de Douaumont et du village de Douaumont. Nos deux régiments, ayant fait une marche de 56 km sans manger, sous un temps épouvantable de gel, de neige, avec un barda sur le dos, les hommes emmenaient entre 20 et 30 kilos de matériel sur le dos, sont arrivés à Douaumont, venant de, en gros de Saint-Mihiel. On leur a dit, là, vous vous enterrez, vous creusez et vous résistez, interdit de reculer. Et ils ont subi pendant 2 à 3 jours un choc épouvantable, toujours dans des conditions physiques absolument épouvantables, de froid, de neige, de privation, de manque de nourriture, de manque d'eau, froid terrible, et ce bombardement incessant, ça a été une horreur totale. Au bout de 4 jours, les Allemands ne sont pas passés. Ils ne sont pas passés. Ça a été une hécatombe dans le régiment. on compte 500 ou 600 morts, je ne sais plus exactement. Enfin bon, c'est vraiment terrible. Le régiment a été relevé pendant 15 jours, 3 semaines. On a reconstitué un peu les effectifs, surtout en cadre, mais en hommes aussi. On a fait venir des hommes du dépôt en catastrophe.
Alors, je vais me permettre d'ajouter un fait personnel. Lorsque vous avez parlé de cette marche pour arriver à Verdun-Douaumont, la dernière lettre du frère de ma grand-mère, qui faisait partie du 95e régiment d'infanterie, note tout ce que vous venez de dire. Il était porté disparu à Douaumont. Il était caporal au 95e régiment d'infanterie. Il s'appelait Louis Martina. Et toute mon enfance, j'ai entendu parler de ce Louis Martina que je n'ai malheureusement jamais connu, hein, qui avait véritablement frappé ma grand-mère, sa mère, que j'ai connue, j'ai bien connu mon arrière-grand-mère, pour vous dire un peu comment ce que ça avait pu être, ce combat. Il avait 20 ans, hein, Louis Martina. Donc, je comprends parfaitement cela. Et c'est vrai qu'on retrouve dans le journal du 95e régiment d'infanterie, très précisément, où se déroule l'action. Et je sais à peu près, en fonction un peu de... J'ai un peu regardé ça, où il a été tué, disparu et autres. Il fait partie de ces milliers de soldats du 95e régiment d'infanterie qui, malheureusement, hein, ont été tués, mais qui se sont sacrifiés. Moi, j'ai toujours entendu dire que le seul témoin, un copain, lui, l'avait vu retourner une mitrailleuse et qu'il avait reçu une balle dans la tête. Voilà. Donc, je crois que ça corrobore parfaitement ce que vous venez de raconter. Comme, voyez-vous, une histoire personnelle peut rejoindre, entre guillemets, la grande histoire de ce prestigieux 95e régiment d'infanterie. Alors, justement, comment débute, après ce terrible bataille de Verdun, l'année 17, fin 16, donc nous avait dit qu'il est parti, il a été un petit peu mis en retrait pour se reconstituer. Qu'est-ce qu'il fait à la fin de l'année 1916?
Mais dans la fin de l'année 1916, il est envoyé dans un lieu qu'on appelle le Four de Paris.
Oui.
Là, il n'y a pas de combat violent direct. Par contre, c'est la guerre des mines, une situation absolument épouvantable pour les nerfs, hein, de savoir que des soldats sont en train de creuser le terrain, de creuser des galeries en dessous de votre tranchée, et que tôt ou tard, quelques centaines de kilos d'explosifs ou quelques dizaines de tonnes vont détonner et vous pulvériser. C'est également un lieu de combat où on fait des prisonniers. Donc pendant 2 mois, d'un côté comme de l'autre, côté allemand ou côté français, le jeu, si je peux dire, consiste à envoyer des patrouilles pour essayer de capturer des soldats ennemis pour les interroger, savoir quel est l'état de l'armée en face, quels sont ses projets, etc., etc., de part et d'autre.
Une autre question bien précise. Est-ce que le 95e régiment d'infanterie participe aux terribles offensives d'avril 1917?
Oui.
Alors, il faut que vous disiez bien précisément, le chemin des dames, ça veut dire quelque chose. Oui. Nivelles, l'offensive Nivelles, ça veut dire quelque chose. Expliquez-nous un peu où se trouve le 95.
Dans le cadre de l'offensive du chemin des dames, qui était dirigée et impulsée par le général Nivelles, et pour lequel une partie de l'état-major et une bonne partie du monde politique, auquel était défavorable une partie de l'état-major et du monde politique. Mais sous l'insistance de Nivelles, qui avait promis qu'en 2 jours, il allait avancer de 10 kilomètres, et que s'il n'avançait pas de 10 kilomètres, il arrêtait. En fait, il a avancé de 500 mètres et il n'a pas arrêté. Bon, ça c'est pour ce qui concerne le chemin des dames. Mais dans le cadre de l'offensive du chemin des dames, sur le flanc gauche de l'offensive, s'est produite une bataille qu'on a appelée la bataille des monts, qui consistait à prendre les crêtes d'une chaîne de petites collines de l'ordre de 200-250 mètres d'altitude, mais qui donnait aux Allemands une vue sur toute la plaine de Châlons-Mailly. Et le 95e régiment d'infanterie était le pivot de la manœuvre de cette bataille des monts. C'est-à-dire que toute le corps d'armée devait pivoter autour du 95e régiment d'infanterie pour venir débloquer, si je peux dire, le siège de Reims qui était mené par les Allemands depuis le début de la guerre. Ça a été une bataille terrible, notamment un lieu très spécifique qu'on appelait le Bois de la Grille,
oui,
qui n'existe plus. J'y suis allé cet été, je n'ai pas vu de bois. Mais bon, les soldats qui étaient à l'époque, ils l'ont vu, hein, je peux vous le garantir, et beaucoup y sont restés. Ce Bois de la Grille a été le cimetière d'un bon nombre de soldats du 8e Corps, notamment du 95e, 85e et du 27e Régiment d'infanterie, puisque depuis début 1917, il n'y avait plus de brigade. La 31e brigade n'existait plus, mais la 16e division avait été portée à trois régiments, 95e, 85e et 27e RI, voilà, jusqu'à la fin de la guerre.
Justement, percevons-nous, vous qui connaissez parfaitement le 95, dans le journal de marche du 95e régiment d'infanterie, un fléchissement du moral pendant cette année 1917, ou est-ce qu'on est toujours sabre au clair
Alors, il faut se méfier du JMO, journal de marche et d'opération. Pourquoi? Parce que c'est un document officiel, rédigé par des officiers d'état-major du régiment, et dans lequel les sentiments ne transparaissent pas. Il faut se méfier aussi des historiques régimentaires qui ont été établis après la guerre, dans lequel c'est un cocorico qui n'arrête pas du début à la fin de cette guerre. Où on retrouve ces sentiments, c'est lorsqu'on peut avoir des mémoires de soldats, des journaux quotidiens de soldats rédigés au jour le jour pendant cette guerre, des courriers. Et là, effectivement, on a la trace d'une fatigue quand même. D'une fatigue, mais d'un fatalisme aussi.
Fatalisme.
Oui. Moi, ça, c'est ce qui m'a frappé dans ces courriers, ces mémoires, c'est que les hommes, je dirais, sont prêts à y laisser leur vie. Quoi. Alors, ils ont ça en tête, ils savent qu'ils ont une bonne chance de ne pas s'en sortir.
Justement, vous qui connaissez bien ce régiment, avez-vous le sentiment qu'une certaine résignation que vous venez de dire se perçoit? Alors je vous pose cette question tout simplement, si vous vous souvenez bien, l'an dernier nous avions fait une émission sur le 408e régiment d'infanterie, hein, celui de Melun-sur-Yèvre. Et rappelez-vous, nous avions lu un certain nombre de poèmes du sergent-major Antoine Dauer, qui était instituteur. Et j'ai relu des deux poèmes pour l'année 17, et j'ai vraiment le sentiment d'une sorte de fatalisme, de tristesse, même si, oserais dire, la poésie essaye d'enjoliver, mais on perçoit vraiment une sorte de désespérance. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Désespérance, non. Fatigue. Fatigue morale, fatigue physique. Encore une fois, fatalisme. Et ceci, on voit que ça s'est traduit déjà dès 1916, notamment au 85e RI, régiment frère, dans lequel, du moins en 1916, dans lequel il était apparu un début de mutinerie qui avait été maté, le responsable principal condamné à mort. Et le jour prévu, le matin de son exécution, quand on est venu le saisir pour l'emmener au peloton qui était déjà rangé, il s'est planté un couteau dans le cœur.
Alors merci Jean-Pierre pour cette histoire du 95e régiment d'infanterie dans l'année 1917, sachant que nous n'avons qu'effleuré le sujet. Merci à vous fidèles auditeurs, auditrices du Berry se raconte avec Agora Défense et la vie militaire dans le Cher et le Berry. Merci à vous.